Donc ce soir, il y a quelques personnes qui n'ont pas pu revenir. C'est là la dernière fois qu'ils sont pas là. Donc, mais avant de... les obstacles et défauts, hein, c'est-à-dire si... Par rapport à l'entraînement mental, si tout ce que j'ai dit les deux fois précédentes, vous avez eu envie de mettre des choses en place, si vous avez trouvé des difficultés, c'est parce qu'effectivement, c'est les personnes qui souhaitent mettre des choses en place, qui trouvent des difficultés. Et ça, c'est connu depuis la nuit des temps. Et non seulement c'est connu, mais c'est répertorié. On sait quel type de difficultés on peut rencontrer.
Tout le monde entend. Ah, je n'ai pas la pression. Bien. Voilà.
Donc, s'il y a des difficultés, il y a des solutions. Mais si on n'entend pas, hop, je rapproche. J'aimerais qu'on n'entend pas. Si je rapproche, on entend. Et c'est un peu de la même nature. Donc, ça veut dire qu'on ne va rien inventer. Il vaut mieux regarder dans l'histoire, dans notre histoire à nous, l'histoire de l'homme et de la femme, l'histoire d'humanité, parce qu'il y a des gens très très pointus qui ont été capables d'identifier tous ces obstacles. Et en dominant, ça sera toujours les mêmes, parce qu'on retrouve toujours les mêmes obstacles. Donc c'est intéressant à les connaître, parce que si on les connaît, on sait comment les dépasser. Voilà. Et avant, plutôt que de vous en parler, moi j'ai envie de ne pas parler.
On ne saura rien alors si vous ne parlez pas.
Ah non, mais je vais parler, mais j'ai pas envie de parler le premier. Ah. Parce que si il y a des personnes, je suis sûr que c'est le cas, qui ont essayé de mettre en place des techniques d'entraînement mental, de concentration dont on a parlé, ce que j'aimerais bien, c'est qu'elles s'expriment. Parce que là, du coup, on verra s'il y a eu des obstacles ou pas, ou des difficultés ou pas. Mais il vaut mieux partir de situations réelles. Donc, qui est-ce qui a essayé quelque chose? D'abord, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit, vous avez dit,
oui.
Allez-y, vous voulez nous en parler? C'est un secret? De toute façon, il n'y a que nous deux. Hein. Allez, tiens, dans le micro, sinon on n'entend pas.
En fait, j'ai fait de la rééducation et j'ai fait de la marche sur le tapis de marche, et ben, au lieu de marcher dans le vide, je comptais.
D'accord.
Je comptais et en fait, je me suis rendu compte qu'il y arrive un moment où mes pensées, voilà. Et donc, hop, je revenais à compter et en fait, je me suis rendu compte que je continuais en fait à compter quand même.
D'accord.
Donc, je me suis dit, en fait, j'avais pas perdu le fil de compter.
D'accord.
Il arrive un moment où, quand les chiffres étaient trop grands, je revenais à 1 pour redémarrer.
D'accord.
Et à chaque fois, quand mes pensées partaient, je me rendais compte, quelques minutes après, je me rendais compte et je recommençais.
D'accord. Est-ce que ça vous fait du bien, cet exercice?
Mais je trouve que moi ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien pendant la marche et pendant ma rééducation.
Oui.
Et par contre, bon, dans la voiture, on en a parlé. Et donc je ne sais pas si c'est bien. C'est que le soir, quand j'ai du mal à m'endormir, je le fais aussi.
D'accord.
Alors je ne sais pas si c'est bien,
pas bien
de le faire pour m'endormir.
D'accord.
Je suis dans mon lit et je compte pour m'endormir. Alors je ne sais pas si je peux cumuler. Oui, mais est-ce que je peux cumuler les deux?
Ben disons que le problème, c'est qu'après, il risque d'y avoir une confusion.
Voilà,
votre
ça,
cerveau, c'est plus voilà. Si vous entraînez, vous endormir.
C'est ce que Nathalie m'a dit voilà. Dans la voiture, elle m'a dit, si je vais là, il ne faut pas que...
Voilà. Il vaut mieux faire un petit exercice avant à côté du lit. Ouais. Quand on commence à fatiguer, parce que ça prend de l'énergie, quand on sent la fatigue arriver, hop, on va se coucher.
Oui, donc en fait, je peux le faire, mais pas en étant allongé.
Voilà, pas dormir. Voilà.
D'accord. Oui. Merci.
Je vous en prie. L'autre personne qui veut...
Je vais essayer.
Ouais.
Je peux dormir plus fort.
Ouais, allez-y.
J'ai perdu dépasser le quart d'heure.
Ouais. Pourquoi?
Je
ne sais pas. Et d'autre part, la musique peut être un objet de concentration. À partir du moment où vous choisissez comme objet.
De cette façon-là.
Voilà. Vous avez vu la différence. Du coup, il y a une quantité incroyable d'objets de concentration. On peut prendre plein de choses. Et ça, c'est une
des
choses.
Oui, après, suite à ça, avec ta concentration, on va sur les instruments. Elle réfléchit en fin de compte, ça peut être comme un
chemin. Je ne suis pas
sûr
qu'elle réfléchisse.
Je n'ai pas trop réfléchi, mais j'ai écouté.
C'est l'écoute. Si vous laissez toute la différence là, se concentrer sur un objet, c'est être à l'écoute ou dans le regard de cet objet. C'est en fait pour arrêter de réfléchir. Vous voyez, c'est justement, c'est pas analytique, c'est plutôt contemplatif. Donc si on est capable de muscler sa concentration, il faut trouver l'objet qui nous parle, enfin c'est pas sans, sans jeu de mots, trouver l'objet qui nous chante. Alors, quand on trouve l'objet qui nous convient, si on est capable de rester sur cet objet, et vraiment, si on développe cette habitude, le cerveau développe la qualité, une capacité de concentration. Et à un moment donné, il faudra essayer à nouveau sans musique. Oui. Ou avec juste le, hein, une musique très, très, presque rien, quoi. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien du tout, pour pas qu'il y ait de dépendance par rapport à l'existence de l'objet. Hein, on se comprend bien que la, la qualité de concentration reste, même quand on enlève l'objet. Mais par contre, effectivement, vous avez raison de le dire, il ne faut pas que ce soit analytique. C'est-à-dire que si on se met à raisonner sur l'objet, ce n'est plus une concentration sur l'objet. C'est une réflexion sur l'objet.
Je pense qu'il y a aucun, enfin, le but, c'est qu'après, il
n'y
ait aucun objet.
Le but, oui, c'est ça. Le but, c'est qu'on on reste en permanence ouvert à ce que l'on vit.
En fait, moi, je, ouais, j'ai fait aussi des expériences, ouais, comme j'ai horreur des chiffres.
Oui.
C'est
ouais, très pour prendre ça.
Je vais plutôt regarder un motif dans le tapis.
Oui.
Et.
Oui.
Alors après, s'il faut enlever le motif dans le tapis. Non, mais comme objet, je veux dire comme objet.
Je vous le dessine parce que c'est vrai que. Ça aide beaucoup de dessins. Mmh. Vous vous souvenez du dessin que vous avez fait la dernière fois? J'avais représenté l'esprit comme un triangle. Vous vous souvenez, hein? Je vous avais dit. Ça se trouve, il est. La feuille est toujours là. Je vous avais dit. Ça, c'est l'étage du cognitif. D'accord? Tout le monde comprend quand je dis l'étage du cognitif? C'est clair. Hein? Ça, c'est l'étage des fonctions automatisées. Fonctions automatisées, c'est par exemple les battements du cœur, la température du corps. C'est des phénomènes que le cerveau régule, mais on ne s'en rend pas compte. Mmh. Mais d'accord. Donc, pour. Par rapport à ce que vous me dites. Isabelle. Là, dans le cognitif, on est ici. À partir du moment où on est capable de regarder des pensées se construire, on est capable de les observer, ça veut dire qu'on est déjà plus tout à fait dans ses pensées. Vous voyez, on est dans une posture d'observation. Et pour y arriver, il faut au départ quelque chose qui nous, à quoi on peut se raccrocher. Et c'est pour ça qu'on dit, on choisit un objet et on se concentre dessus. Parce que si on concentre son attention sur l'objet, du coup, il n'y a pas la place pour avoir des pensées parasites. D'accord? Tout le monde comprend ça. Hein? Et à force d'être concentré sur un objet, qu'est-ce qui va se passer? C'est que notre cerveau va être éduqué à ça. C'est-à-dire qu'il n'aura pas besoin d'un ordre de notre part. Il va spontanément se poser sur un objet et y rester. Quand ça arrive, on n'est plus là. On est projeté ici. Pourquoi? Parce que quand on ne pense plus, on n'est plus dans le cognitif. Quand on n'a plus besoin de la pensée, on n'est plus dans le cognitif. On est au-delà du cognitif. Oui. C'est pour ça que je disais les grands artistes, un artiste, c'est un vrai artiste, on dit que c'est quelqu'un qui a appris une technique et qui a su l'oublier. Il l'a oublié. Il a besoin de la technique pour exercer son art, mais sa créativité, elle ne vient pas de la technique. Sinon, ce n'est pas un artiste. C'est exactement pareil pour les méditants, les gens qui pratiquent l'entraînement mental. À partir du moment où vous placez votre attention sur un objet sans effort, c'est-à-dire sans avoir à faire de rappel, à partir du moment où ça devient une activité naturelle de votre esprit, si votre concentration est là, sans qu'il y ait d'activité intellectuelle, vous êtes projeté ici. Vous n'êtes plus dans le cognitif. Ça va, ça clarifie bien? Donc, toute la question, c'est quel objet choisir? Quel objet choisir pour pas que ça soit quelque chose de chiant à faire, quoi, ou de pénible à faire? Si je suis bloqué sur les chiffres, ça va être pénible. C'est pas l'objet qui me faut. Si c'est la musique, c'est la musique. Il faut trouver l'objet qui nous convient, mais cet objet n'est qu'une béquille. Parce qu'à un moment donné, on est au-delà de la question de l'existence de l'objet.
On n'est pas l'obligation d'avoir un objet.
C'est pour nous, malheureusement, c'est vraiment une étape indispensable.
Je sais que quand je l'ai fait, je me suis juste concentré
ouais.
Sur ma respiration.
Oui.
J'ai compté par rapport à ma respiration. Oui. Je n'avais pas forcément d'objet spécifique.
C'est un objet. Par objet, il faut entendre le sujet de la concentration. Le sujet de la concentration.
Le fait de laisser passer les pensées, ça suffit pas non plus.
Disons que l'idéal serait de laisser passer les pensées, sauf que comme notre esprit n'est pas entraîné, on ne peut pas rester longtemps comme ça. Très vite, on va partir avec elle. Si vous pouvez rester dans l'état que je décrivais aussi longtemps que vous le souhaitez, alors l'objet n'a aucune utilité. La bêtise n'a pas d'utilité. Et là, le problème, c'est que les personnes qui ont cette capacité, en général, c'est qu'elles se sont entraînées avec un objet. Quoi. Il n'y a personne qui apparaît en disant « je suis capable de rester assis des heures et des heures comme ça, sans interruption de la concentration. » Je ne l'ai pas encore rencontré, jusqu'à maintenant. Bon, on se comprend bien. Hein. C'est un aboutissement quoi, d'un travail. Ça va, c'est clair tout ça? C'est clair pour tout le monde? Du coup, on peut rentrer dans le vif du sujet? Vous voyez bien de quoi il est question. Hein. Vous voyez bien de quoi il est question. Ce qui nous intéresse, c'est d'accéder là. D'accord? Et en fait, c'est pas évident du tout. Mais c'est bien parce que je pensais qu'il y aurait plus d'obstacles que ça.
Oh ben il y en a hein, quand même, il y a des choses qu'on n'a pas à dire. Voilà. Il faut s'y mettre, il faut être régulier, il faut s'y tenir, et tout ça c'est impossible pour moi.
Voilà. Voilà un bon exemple, Camille.
Alors, moi je compte ma respiration,
ouais.
Mais quand je me mets à compter ma respiration, je suis complètement omnibulée par le fait que j'inspire, j'expire, j'ai l'impression que je fais que ça, tout le monde me voit faire, enfin, ça prend des proportions importantes, quoi. Alors que autrement, je respire normal. J'ai l'impression que ça force ma respiration, et que du coup, je suis en train de...
C'est, d'une part, il vaut mieux éviter de le faire quand il y a du monde autour.
Oui, non, mais j'ai pas l'impression physiquement de respirer plus ou moins.
Oui, c'est normal, parce que il y a une tension. C'est parce que vous êtes tendu. Vous êtes tendu sur l'objet de votre concentration. Ça arrive souvent, c'est le début, mais ça va passer tout seul. Parce qu'au début, vous voyez, par exemple, il y a des gens qui ont des problèmes oculaires. Il y a des personnes qui ont des problèmes de déglutition. C'est pourquoi ? C'est parce qu'ils ils forcent la concentration, ils y croient beaucoup. Et vous avez raison, ils ont la volonté d'y arriver. Et donc, ça crée une tension à l'intérieur. Ce qu'il faut arriver, c'est passer ce cap, vous verrez par la suite, c'est observer sans modifier. Quoi. Il faut faire zen, détendu, il faut regarder sans modifier. Et ça se détend tout seul en général.
Vous nous avez dit au premier cours qu'il était préférable de garder les yeux ouverts.
Oui.
Et là, moi, j'ai du mal, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus concentrée et à mon pointage et à ma respiration si j'ai les yeux fermés.
D'accord. J'arrive à votre question. Je notais la question. Donc, est-ce que la réponse vous parle ou vous parle pas?
Je vais rajouter une chose par moi.
Oui.
Par rapport à cette respiration qui a accéléré, moi, la première fois que je l'ai fait, effectivement, j'ai eu cette impression-là. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est. En fait, j'ai l'impression que c'est la concentration sur ma respiration qui faisait que ça accélérait ma respiration. Et non pas. Enfin, je vais vous dire. Ma respiration qui faisait que je comptais, non pas moi qui comptais ma respiration. C'est clair. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis calmée, j'ai arrêté de compter, j'ai repris ma respiration normalement, et j'ai compté ma respiration telle qu'elle était. C'est-à-dire que je n'ai pas fait 1, 2, 3, enfin, ça c'est très exagéré, mais rapidement, et c'est en fonction de ça que j'ai mis ma respiration.
Est-ce que vous l'avez fait beaucoup de fois? Est-ce que vous avez fait l'exercice beaucoup de fois?
Oui.
Et à chaque fois, ça vous fait pareil.
Vous
faites toujours. D'accord. Je vais y réfléchir.
Oui.
D'accord. Vous essayerez.
Il y a des places devant.
Je réponds à cette dame et puis tout de suite après. Alors, madame, elle a posé la question de la dame. Vous l'avez tous entendu. Histoire des yeux ouverts ou des yeux fermés. Alors, quand on débute, c'est vrai que quand on ferme les yeux, c'est parfois un peu plus facile. Mais c'est une voie en impasse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne pourra plus faire de progrès. Parce que l'esprit a tendance, du coup, à se mettre dans une sorte d'état qui n'est pas du tout de la clarté, vous voyez, la conscience de ce qui nous arrive. Et donc, c'est une impression assez fréquente chez les personnes qui débutent. Vous pouvez continuer, moi c'est ce que je dis aux gens, je dis continuez d'essayer, vous le verrez par vous-même. À un moment donné, vous allez vous apercevoir que vous ne pouvez plus faire de progrès, les yeux fermés. Ça répond à votre question?
Oui.
Madame.
Oui, moi j'avais, j'ai testé, j'avais un peu le même problème de me concentrer trop sur la respiration et que je prenne trop d'ampleur, comme si en écoutant la musique, je me mettais à écouter le basson, le machin, voilà. Et en fait, on m'a dit qu'il y avait une ruse, c'était que vous n'êtes pas concentré sur la respiration, vous allez mieux se concentrer sur, par exemple, l'air le souffle sur les narines. Juste un
mot. La caresse de l'air qui passe sur les tarifs.
Voilà.
Ouais, c'est possible de faire.
Mais je trouve que c'est plus léger.
Oui.
Alors, mon expérience, je l'ai fait. Mais une autre expérience que j'ai faite pendant longtemps, et ça a très très bien marché, c'est dans ce que je fais, quand je partais, hop, vite, je revenais. Dans mes activités, parce que là, assise et comptée, ça c'est mon expérience, hein. J'ai l'impression de perdre du temps. Alors que dans la vie de tous les jours, dans mon ménage, dans tout ce que je fais, eh bien, je suis dans ce que je fais. Et quand je pars, hop, je reviens dans ce que je fais. Et ça marche.
D'accord.
Donc, bon, ça c'est mon expérience.
D'accord. Donc, c'est une histoire de votre expérience.
Voilà.
C'est pas une question.
Voilà.
C'est ça. C'est pas une question. D'autres choses ? Oui ?
Moi, je rejoins la personne là,
oui.
Au niveau de la respiration. J'ai aussi essayé sur la respiration et c'est vrai que je me suis concentrée sur ma respiration normale. Donc, je comptais ma respiration normale, ce n'est pas le compter à un rythme régulier. Et c'est vrai que c'est assez apaisant. Enfin, j'ai fait ça une fois dans la journée, mais la nuit, j'ai essayé de le faire pour endormir, alors là, ça n'a pas marché.
Ben non, c'est... Oui, c'est, on repart sur ce qu'on disait tout à l'heure. Quoi. Il faut, c'est des exercices différents à faire à des moments différents. Quoi. C'est une question ou une remarque? Est-ce que c'est une question que vous posez ou une remarque?
Non, c'est simplement un partage de ce que j'ai dit.
D'accord, ça marche. D'autres choses?
Oui, moi j'ai
fait
le soir.
Oui. C'était là pour cette tour de table. C'est une remarque, c'est pas une question. C'est normal, hein, mais d'accord. Donc je m'arrête là pour ce tour de table, et c'est une très bonne introduction à ce qu'on va voir maintenant, parce qu'en fait, ce chemin permet de réaliser des choses. Ça, c'est, enfin, en tout cas, moi, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Quoi. C'est très clair, c'est très évident. Mais le problème, on pourrait comparer ce chemin, on va dire, à une course, vous savez, un coureur qui doit sauter des haies. C'est un coureur, il y a des coureurs à 60 mètres, 200 mètres, 500 mètres, je ne sais pas quoi, 1000 mètres. Et il y a des coureurs avec des haies, d'accord ? Et nous, on est un petit peu dans la même situation. C'est-à-dire que pour nous, les haies sont des obstacles, et il y a des obstacles à cette pratique, mais c'est aussi ce qu'on a choisi. On a choisi une course où il fallait sauter les haies, d'accord ? Et à côté des obstacles, il y a ce qu'on va appeler les défauts. C'est-à-dire qu'acceptant l'idée qu'il y ait des obstacles, on peut faire des erreurs techniques. Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? C'est clair ce que je dis, hein? C'est-à-dire que les obstacles sont naturels, puisqu'il y a des VR, mais il faut tenir compte de ces obstacles, et même si on tient compte de ces obstacles, on peut faire des erreurs techniques qui font qu'on a des défauts et ne pas réussir à franchir l'air. Ça va? Bon, si ça va, je continue. En réalité, quand je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une connaissance qui nous vient d'un grand nombre de traditions authentiques là-dessus, c'est parce que ces obstacles et ces défauts ont été répertoriés. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de voir la liste de tous ces obstacles et de tous ces défauts. On devrait normalement retrouver ce qui a été dit. Et en plus, ce qui est sympathique, c'est qu'à chaque fois, si on voit les obstacles, on peut voir qu'est-ce qu'il convient de faire pour que ça ne nous perturbe pas, sachant que les obstacles sont là, les haies sont là. Hein. Et s'il y a des défauts, qu'est-ce qu'il convient de faire pour les corriger? C'est ce qu'on va appeler les antidotes. Donc en principe, vous devriez à peu près tous se retrouver à un moment donné, vous y retrouver, ou dans les obstacles, ou dans les défauts. Et surtout, les gens qui ne sont pas là ce soir devraient s'y retrouver. Vous allez comprendre pourquoi.
Allez, pour m'écouter.
Bonjour. Donc,
Est-ce que vous entendez au fond?
C'est mieux sans micro. D'accord. Bon, alors on va faire sans micro. Donc, je vais commencer par les quatre obstacles. Est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous ai dit du bas du triangle la dernière fois? Qu'est-ce qu'il y avait d'un côté et de l'autre? Voilà, c'est ça. En fait, je vais aller un peu plus loin que moi et les autres. Il y a ce qu'on va appeler la dualité, ou le binaire. C'est-à-dire le plus, le moins. Moi et les autres, le bien, le mal. C'est comme quand le bébé est dans le ventre de sa maman, c'est toute une unité, quoi. C'est la vie, c'est un ensemble. Quand il en sort, il y a une séparation. D'accord? Et après, il y a le bébé et sa maman, et après, il y a le papa et la maman, et il y a la famille et les étrangers. Oui, c'est ce paramétrage qui nous fait voir la vie de cette façon-là. On peut le retrouver à des niveaux très différents. Hein. La vie, la mort, moi, l'autre, le plus, le moins. D'accord? Donc, j'insiste pas, je le réécris pas dessous. Mais en tout cas, cette notion de sujet et d'objet est une programmation que nous avons effectivement dès la naissance. Ça va, c'est clair? Mais du coup, c'est cette programmation qui est à l'origine des obstacles. Pourquoi? Parce qu'elle va créer chez nous des réactions à ce qui nous arrive. Et en particulier, ça va nous amener à avoir des pensées un peu récurrentes. Par exemple, je vais prendre le premier obstacle, c'est ce qu'on appelle la malveillance. C'est-à-dire que à partir du moment où des gens nous ont un peu pourri la vie, c'est le cas, certains d'entre vous? Non, pas du tout. Personne. Il y a un conditionnement, on va dire culturel un peu, une réaction un peu complètement normale compte tenu de notre éducation, de notre conditionnement, c'est qu'on ne va pas forcément les voir avec bienveillance. Vous voyez ça? Et alors, je ne dis pas que tout le monde est pareil, hein. C'est des grandes tendances. Mais il y a des personnes qui seront plus ou moins malveillantes. Alors, c'est vrai que du coup, dans ce genre d'assemblée, on n'a pas non plus des personnes très malveillantes en général. C'est plutôt le contraire. Les gens intéressés par ces techniques sont plutôt bienveillants. Donc, ne vous sentez pas forcément trop ciblés par ce que je dis. Hein. Mais ceci dit, c'est quelque chose qu'on a potentiellement en nous tous. Cette malveillance. Et elle peut s'exercer à des moments où on s'y attend le moins, je sais pas, en conduite automobile. Ou... Franchement, il y en a. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous passe sous le nez à la caisse d'un supermarché ou les horribles bourreaux qui font du mal aux gens. C'est une méchance. Ouais, c'est terrible. Vous voyez, on peut avoir de la malveillance sans. En disant, cet homme-là fait du bien à l'humanité, celui-là fait du mal à l'humanité. Donc c'est... Vous voyez, la malveillance, c'est parfois un peu détourné.
C'est de la malveillance de penser que quelqu'un fait du mal à l'autre?
Non, mais du coup, ça peut nous amener à avoir des idées un peu malveillantes, quoi. Lui faire un croche-pied pour pas qu'il fasse du mal à l'autre.
Ah, c'est autre chose, d'accord. Ça, c'est...
Mais après, non, c'est... Vous voyez, la malveillance, elle arrive derrière. Oui. Mais ça peut être aussi vis-à-vis de nous, la malveillance, hein. Malheureusement, oui, il y a des personnes qui sont malveillantes, et même parfois sans s'en rendre compte, il s'agit d'elles-mêmes.
Ah oui.
Mais du coup, ça crée des pensées. Par exemple, vous êtes là chez vous, vous voulez vous asseoir pour méditer sur l'entraînement mental, vous vous asseyez, et puis, je cherche la tranquillité, et je repense à mon N plus 1, c'est ce que c'est le N plus 1, responsable hiérarchique, qui n'aurait jamais dû être responsable hiérarchique, c'est une personne parfaitement incompétente. Non, mais c'est des relations. Personne n'a eu poste par relation. Mais franchement, c'est quelqu'un qui... Vous voyez? Et comme ça, je ne peux absolument pas méditer. Pourquoi? Parce que tout ce qui s'est passé dans la journée avec cette personne, l'enregistrement ne sort pas d'ici, hein, c'est une ressemblance avec les faits réels, on est d'accord, mais c'est pure coïncidence, c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Je ne veux pas avoir d'ennui. Donc,
non,
hein, c'est bon, tu me garantis. Hein.
C'est sûr, sur hein. Internet...
On n'a pas dit non. On n'a pas dit non, ça va. Non, bah, je l'adore. Je dis ça maintenant.
Mais
vous, oui.
Mais pourquoi
je suis bêta. Le Dalai Lama, il dit non, moi je les plains parce qu'ils ont été conditionnés par un système qui les amène à tuer. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils font du mal. Et pour lui, c'est encore, c'est pire parce que les gens, des fois, font du mal sans s'en rendre compte. Ils sont tellement dérangés dans leur tête.
Parce que je me dis, voilà, mais ils sont quand même pour tout à ce point-là pour faire du mal.
Ben, malheureusement, voilà. Mais on en discutera tous les deux au moment d'une pause. Parce que sinon, ça va ressortir du sujet, mais ça pourrait discuter. Hein. D'accord ? Mais quoi qu'il en soit, pensons à nous surtout. Et je vous assure que c'est très facile de repenser un épisode dans lequel on était en opposition avec quelqu'un, et ça nous empêche de méditer. Et ça nous arrive à beaucoup. Et ça, c'est un obstacle. Alors, après, il y en a d'autres. Hein. Il y a, dans le même ordre d'idée, il y a la jalousie.
Ah oui, un bonsoir.
Ah ben oui. J'insiste pas. Ça vous parle? Ça vous parle?
Souvent. Trop souvent.
Trop souvent. D'accord. Mais là aussi, il y a des aspects un peu subtils, quoi. Il y a la jalousie, comme on la connaît, puis il y a des aspects plus subtils.
C'est des fois que c'est méchant.
C'est pas méchant, mais oui, c'est des choses qui peuvent nous perturber quand on a décidé de méditer. Pourquoi ? Parce que ça a laissé des empreintes, c'est ce que je vous expliquais, une cicatrice, plus on la gratte, moins elle guérit. Un chemin en montagne, plus on marche sur l'herbe, moins l'herbe repousse, plus on prend le chemin. On a l'habitude depuis tellement d'années. Donc du coup, on veut concentrer son esprit, et puis on pense à l'objet de notre jalousie, là, c'est ce truc. Parce qu'en fait, le chef, c'est moi qui aurais dû être le chef. Vous comprenez ? C'est ça. Donc, laissez tomber.
Tout peut être un obstacle, de toute façon.
Oui, mais là, c'est les quatre grandes. Il y en a quatre. Ah, ouais. Vous allez, elles sont liées à cette opposition des deux sommets du triangle. D'accord ? Parce que, par exemple, je vous parle de la malveillance, et j'aurais pu vous parler, je regarde, pour ne pas vous aboutir dans notre système, du désir attachement. C'est-à-dire, c'est soit la répulsion, soit l'attachement. C'est pareil. Je n'ai pas ceci, donc il peut y avoir de la malveillance, je suis content de ne pas l'avoir parce que ça ne me procure pas du plaisir, c'est de la répulsion, soit je peux être jaloux de ne pas l'avoir, soit je peux être attaché à l'avoir, et c'est le désir, c'est-à-dire l'attachement. C'est-à-dire, je vais prendre des exemples, évidemment, bon, on peut prendre des exemples les plus gros, c'est-à-dire je désire quelque chose, c'est bientôt Noël, je voudrais une nouvelle voiture, ça m'empêche de méditer, oui, ça, est-ce que ma femme va m'offrir une? Ça peut être ça. Mais des fois, c'est plus subtil que ça. C'est, j'ai perdu quelqu'un de ma famille que j'aimais beaucoup, et je vis très mal cette perte. Mm-hmm. On est bien dans des attachements. Et on pourrait en discuter, mais ce serait une autre discussion. Mm-hmm. Mais vous voyez, le désir attachement se manifeste sous des formes très très différentes. Ça peut être des choses qu'on désire, ça peut être des choses auxquelles on est attaché, et c'est une réalité de l'être humain. Quoi. On fonctionne, on se construit là-dessus. On passe notre vie à désirer des choses. Désirer l'amour, désirer de vivre correctement en famille, désirer la santé pour ceux qu'on aime, désirer la retraite pour faire ce qu'on a envie de faire, désirer les justice, vacances.
Justice est mal faite. La justice est mal faite.
Voilà. Par exemple, une meilleure justice. Et vous voyez, chaque fois qu'on est dans le désir de quelque chose, on est potentiellement dans la souffrance de ne pas posséder cette chose. À partir du moment où je désire, je peux souffrir.
Mais c'est pas négatif en soi.
C'est pas
négatif.
Rien n'est négatif. Mais ça peut devenir un obstacle à la méditation. C'est négatif.
Comment on dit ?
À partir du moment où ça devient un obstacle à notre concentration. Mais je ne dis pas que c'est négatif. C'est ce qui permet à l'être humain de survivre et d'avancer. Mais à partir du moment où ça nous perturbe dans notre travail, c'est un problème. Mais je ne dis pas que c'est négatif. Je n'ai pas dit que c'est négatif. Je dis qu'on est construit sur ce mode. Ça va ? Ça répond à votre bonjour. Hein. Pour moi, il n'y a rien de négatif. On est bien d'accord. Par contre, là, je suis dans un cas très particulier. C'est qu'est-ce qui peut perturber notre esprit quand on s'assoit pour méditer ? Et effectivement, du coup, ça peut être une cause de distraction. C'est-à-dire on est soucieux par exemple de quelqu'un qu'on aime bien qui a un problème et on désire résoudre le problème. Mais du coup, comme on est soucieux de ce désir de résoudre le problème, on a beaucoup de mal à concentrer l'esprit parce qu'on se dit la priorité c'est quand même d'aider la personne. Il y a un désir de faire quelque chose. C'est plus un fonctionnement de l'esprit qui va entraver la capacité de se concentrer sur un objet. Ça va ? Et le dernier. Le dernier, j'en ai donné trois, ça va? Deux?
La malveillance, la jalousie.
Le premier, c'est la malveillance. Oui, ensuite, il y a la jalousie. Oui. Le désir attachement. Voilà. Et le dernier, c'est le doute, la certitude. Enfin, ce que je vous raconte, ça vous cause. C'est pas. Est-ce qu'il a complètement raison dans ce qu'il dit?
L'incertitude.
Le doute, incertitude. Doute, incertitude. Doute, être incertain, quoi.
Oui, oui.
C'est pas sûr, hein. On l'a vu deux fois jusqu'à présent. Au zéro, c'est déjà crédible. Mais quand même, moi j'ai vu quelque chose ailleurs. Vous voyez, c'est. Il faut comprendre que ce doute, on le porte en nous. Mais c'est pas. C'est encore une fois, c'est un fonctionnement.
Mais quel que soit le livre, je disais la certitude corrompue.
Voilà.
Donc, ouais, peut-être quelquefois préférence de porter de certains.
Peut-être, oui, ça dépend comment on dit.
Ça dépend comment on dit.
Et en tout cas, le doute et la certitude va être un obstacle, du coup. Pourquoi? Parce que vous allez vous dire, par exemple, bah, tiens, ce soir, je vais méditer, et je me dis, mais est-ce que j'aurais pas quelque chose de plus intéressant à faire? Parce que, justement, j'ai quelqu'un qui a besoin de moi, de mon aide. Ah, ben là, c'est ennuyeux. Je fais quoi? Où est ma priorité? Vous voyez, c'est encore un fonctionnement qui peut nous détourner d'une action. Ça va, c'est clair quand je vous dis ça? Mais vous comprenez bien que c'est des fonctionnements de base. Après, on peut mettre n'importe. Ça peut prendre n'importe quelle forme en fonction de ce qu'on a vécu. Mais c'est des fonctionnements, c'est quatre fonctionnements de base. Alors, au Tibet, dans le temps, c'était beaucoup plus facile parce que les personnes qui méditaient là-bas ou en Inde, vous savez, je vous ai dit, par exemple, c'est des gens qui, sans aucune difficulté, peuvent travailler au niveau des fonctions automatisées. Donc, par exemple, quand on voit quelqu'un presque dévêtu aller dans la neige et faire si on lui met un drap mouillé dessus, il est capable, au petit matin, à 5h du matin, de sécher le drap à 3000 mètres d'altitude. Les gens disent, ah ben là, cette personne a la capacité de maîtriser un certain nombre de choses, la température de son corps, son rythme cardiaque, les gens qui font de l'apnée, etc. Donc, c'était beaucoup plus facile à cette époque. Pourquoi? Parce que comme il y avait beaucoup de yogis, beaucoup de gens qui étaient très avancés dans la méditation, on voyait les résultats de ce travail. C'est un petit peu ce qu'on retrouve dans les évangiles, quoi, vous savez, où à un moment donné, les gens voient des miracles et disent, moi, c'est ça qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que du coup, il n'y a plus la place au doute. Mais dans notre société moderne, des miracles, on n'en voit pas beaucoup.
Non.
Et du coup, on s'est dit, est-ce que finalement, la sophrologie, ce ne serait pas plus facile? Vous voyez, ça crée une confusion dans notre esprit. Pourquoi? Parce qu'on. Et c'est normal aussi, ça fait partie de notre éducation. Hein. On est un peu comme saint Thomas, quelque part. Et c'est très simple, d'ailleurs. On a besoin de vérifier ce qu'on entend. Mais du coup, on est en proie au doute et à la certitude. Mais ce doute peut être un obstacle à notre pratique. C'est clair? Ça va pour tout le monde? On se comprend bien. Hein. Mais c'est des modes de fonctionnement. Par exemple, si l'objet que je désire, c'est d'arriver à méditer, vous voyez le problème? Je vais être dans le doute. Donc, vous voyez, ça rajoute le problème encore. C'est une sorte de cercle vicieux, en fait. Plus je désire quelque chose, y compris d'arriver dans la méditation, plus je m'ancre dans ces systèmes qui me perturbent et qui créent des tensions, qui s'expriment à leur façon. C'est clair tout ce que je dis? Donc, quand on a posé les choses, quand on a dit ces obstacles, c'est absolument normal qu'ils existent. Pourquoi? Parce que notre cerveau, l'être humain, est paramétré comme ça. Bon, ben, qu'est-ce qu'on en fait maintenant quand on les rencontre? Et donc, il y a deux façons de faire. Il n'y en a pas 36. La première façon de faire, c'est pendant la pratique. Que faut-il faire pendant la pratique? Eh bien, il faut constater leur existence. C'est toujours le même principe. On ne change rien. On est dans une posture d'observation. Si je suis capable d'observer, je ne suis plus dedans. Vous vous souvenez de ce que je vous avais dit sur les pensées? Si je suis capable, c'est la métacognition. Si j'observe un raisonnement, je prends du recul. Si j'observe la présence d'un obstacle, je prends du recul. C'est-à-dire, par exemple, au lieu de me culpabiliser, etc., c'est quand je constate qu'une pensée tiraille mon esprit. Et du coup, ben, on fait comme la personne de tout à l'heure. Qui est-ce qui se concentre sur la musique ? C'est vous, voilà. Du coup, à la limite, c'est presque l'objet de la concentration, l'observation de ça. Au lieu de le refuser, on l'accepte et on le constate. Le fait de le constater fera qu'à un moment donné, on a pris le recul suffisant et ce sera comme une vague, il retombera de lui-même. C'est toujours la même mécanique en fait. On n'essaie pas de changer. Les changements se feront d'eux-mêmes. Simplement, il faut qu'on soit conscient de cet obstacle quand il se produit. Et donc, l'exercice que je vous propose, c'est chaque fois que vous ressentirez vous allez vous mettre à méditer et votre esprit va être agité. Ça arrive à certains déjà, ça. Essayez de rapprocher l'origine de cette agitation d'un des quatre obstacles. Regardez de quel obstacle vous pouvez le rapprocher le mieux. Observez-le, ne le refusez pas. Si vous êtes dans cet état-là, il y a une raison pour tout ça. On n'a rien à refuser, on n'a rien à refouler. Il faut simplement l'observer. Exercice intéressant, mais pas facile à faire. C'est-à-dire, bon, si je suis en colère, je observe ma colère. Si je suis dans le doute, par exemple, vous partez à méditer, vous allez observer vos obstacles. Puis il n'y a pas d'obstacle. Puis vous dites, après tout, que ça marche le truc et pas qu'il nous a raconté. Observez votre doute. Vous voyez ? Observez-vous avec le plus d'objectivité possible, sans jugement. Je suis dans le doute. Ou alors l'autre qui dit qu'il y arrive, moi j'y arrive pas. Observez la jalousie qui peut naître. Vous voyez, observez tout ça. Apprenez à observer sans intervenir. Et vous verrez que si vous le faites régulièrement, en tout cas c'est ce qui est dit dans ces apprentissages, dans ces enseignements, à un moment donné ça retombe tout seul. Ça finira par se vider. Alors, ça, c'est ce qu'il convient de faire pendant qu'on pratique. C'est-à-dire être conscient de quelque chose, sans essayer de le modifier. C'est la meilleure façon de le modifier. Et la façon de faire en dehors de la pratique, c'est développer les qualités inverses. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui a tendance à être jaloux, vous voyez, c'est donner, quoi. Donner ce que vous avez peur de perdre, donner ce que vous... L'autre a un truc que vous voudriez avoir, vous ne l'avez pas, ben donc du coup vous donnez ce que vous avez, des trucs un peu comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des qualités à développer, la générosité, la patience, la diligence, quand vous êtes accroché à quelque chose. La vertu, vous voyez, tout ce que vous pouvez développer comme qualité. Dans la vie, en dehors de la pratique, hein. Dans la vie de tous les jours, je ne l'ai pas dit. Hein. Si vous développez ces qualités, ça va ébranler la façon dont la société nous a conditionnés. Quoi. Ça va vous placer dans une autre façon de vivre. C'est pas facile à faire. Parce qu'en général, réagir à l'inverse de nos tendances, c'est plus facile à voir les autres et à dire « Ouais, celui-là, il est... » Mais nous, trouver nos propres obstacles et trouver un comportement qui réagit à l'inverse, c'est pas toujours évident. Et ça nous amène vraiment au pied du mur, en ce qui nous concerne, sur nos obstacles à nous. Et là, il faut développer la vertu, il faut développer un certain nombre de qualités, qui se perdent beaucoup à notre époque. Et si on le fait, vous allez voir, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Ça donnera de la force à votre pratique. Ça va sur ce que je viens de dire ouais. Ça vous parle?
Je vais faire deux temps en même temps pour pas.
On a fini les obstacles. J'attaque le défaut, si je puis dire. Ouais. C'est bon. Donc dites-vous bien, les obstacles, vous n'avez rien à. Il n'y a pas d'erreur technique de votre part. Il n'y a pas de défaut de votre part. C'est quelque chose qui est lié à l'existence humaine, au fonctionnement du cerveau d'être humain. C'est parce qu'on est conditionné comme ça que c'est ça. Ce n'est pas une erreur de technique. L'erreur de technique, ce serait de ne pas faire ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire de ne pas vous rendre compte de l'existence d'un obstacle et de ne pas chercher à modifier votre vie au quotidien en dehors de la pratique. Ce serait perdurer l'obstacle. Question ? N'hésitez pas, hein, si avant qu'on quitte, c'est une question. Oui ?
N'en ai pas patient, vraiment.
d'anglais. Quand on n'est pas patient, comment on fait? Patient. Quand on n'est pas patient, comment on fait? Eh bien, premièrement, on constate qu'on n'est pas patient. C'est déjà la moitié du chemin. Et ensuite, chaque fois qu'une opportunité se présente dans votre vie, rappelez-moi votre prénom.
Monique.
Monique, vous pensez à moi. Chaque fois, vous voyez, c'est ça. Il ne faut pas provoquer les choses. Il faut avoir la patience qu'une opportunité se présente dans votre vie, c'est-à-dire quelque chose que vous ne supportez pas parce que vous n'êtes pas patient, pour dire, eh bien là, je porte la pierre, je vais essayer d'attendre tranquille. Vous aurez la patience d'attendre cette épreuve?
Oh, je ne sais pas. Je m'en rends d'acheter quelque chose, je veux que ce soit fini avant d'être commencé.
Eh bien oui, mais vous voyez bien, tant que vous allez être comme ça, vous aurez beaucoup de mal à méditer. Parce que vous avez déjà fait des bons gâteaux.
Ah oui.
Vous avez déjà mis des gâteaux au four. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on met un gâteau au four? On attend que le moment soit arrivé. La méditation, c'est pareil.
Ah, mais j'ouvre souvent le four, hein, pour voir ce que...
Bon. Eh bien oui, ça a fait du froid. Que vous pensiez à ce qu'on est en train de dire pour ce soir. N'ouvrez plus le four. Il faut que vous étiez... La vie, là, demain, après-demain, va vous mettre des opportunités sur votre chemin. Elle va vous placer des opportunités. La prochaine fois que ça vous arrive, je le dis avec beaucoup de sérieux, repensez à nous ce soir, à ce qu'on est en train de dire. Et dites-vous, quelle est la meilleure façon de réagir à cette situation qui m'est donnée? Si vous faites ça, vous avez la réponse à votre question. Mais aucun d'entre nous ne peut vous dire quelle est la meilleure façon de réagir.
Ça fait comme quand je tricote, c'est pareil. Hein. Je voudrais que ça serait fini avant de commencer. Je lance une maille. Ah, elle m'en a de soi.
Qui fait des choses qu'il a rencontré? C'est parce qu'il la rencontre qu'il découvre que c'est la femme de sa vie et qu'elle, elle découvre que c'est. Il ne pouvait pas ne pas se rencontrer. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit tout mon passé, les photos que j'ai appris à faire, etc., etc. Ça avait un sens, mais vraiment un seul sens. C'était nous, ça nous a permis de nous rencontrer. Autrement dit, tout ce qu'il y a derrière lui a vraiment un sens, un seul. C'est l'instant qu'il va vivre avec elle. Et bien vous, pour votre tricot, c'est pareil. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de faire votre tricot, toute votre vie, elle est là dans cet instant. Si vous souhaitez quelque chose plus tard, ça veut dire que vous souhaitez être plus vieille, vous voyez. C'est-à-dire que vous souhaitez un autre moment que celui qui vous est donné.
Ah oui.
Et pourtant, on n'est pas bien là, dans le moment présent?
Bah si.
Oui?
Si,
non.
Si.
Vous êtes sûr?
Oui.
Alors pourquoi vous souhaitez un autre moment?
Ah, ben parce que je ne voudrais pas dire si.
Eh bien justement, justement, soyez dans l'instant présent. Le problème, il est là, c'est que dès qu'on se projette dans l'avenir, on oublie la vie. Elle est là, la vie.
Oui, mais faut la prendre quand même.
Bon, je vois qu'entre nous, il faudrait qu'on envisage des cours particuliers. On ne va pas perturber tout le monde là-dessus. Mais je crois que vous avez compris le sens général. Hein, c'est pas si mal. Donc, il faut connaître ça. Ça va pour les obstacles. Donc, gérer les obstacles quand ils se produisent. Et vous savez comment y réagir, c'est je suis conscient qu'il y a un obstacle, mais culpabilisez pas, c'est pas un défaut technique, c'est lié au fonctionnement de l'homme, de la femme, hein, c'est lié à notre fonctionnement, on est conditionné pour ça dans notre vie. Donc c'est naturel les obstacles. Simplement, la meilleure façon de faire, c'est de constater leur existence quand on pratique, et en dehors de la pratique, c'est essayer de développer une vie vertueuse. Oui, en développant des qualités. Plus vous développerez des qualités, ça paraît idiot ce que je dis à notre époque. Hein. C'est une vraiment, les gens oublient ça. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Il y a beaucoup de gens qui dormiraient beaucoup mieux. Des fois, il y en a qui aspirent à faire ça, mais comme ils sont tout seuls, ils n'osent pas, vous voyez. Ils disent, ça va pas, on va prendre pour un con. Trop gentil, trop bête. On va me manger. C'est vrai. On a peur d'être mangé par les autres. Et du coup, on n'ose pas. développez la droiture en vous. Vous verrez, ça va payer. C'est une évidence. Très vite. Il faut être droit. D'accord ? Ça va ? Ce que je vous dis ? Vous verrez, les obstacles ne seront plus des obstacles. Je passe au défaut. Là, on va rigoler. Hein. Nous pouvons être confrontés à 5 défauts différents.
Ouais. Oui, mais 5, mais il y a beaucoup de...
Peut-être qu'Amel. Peut-être qu'Amel va peut-être ajouter des défauts. Donc, le premier, c'est la paresse.
Ah ouais.
Eh oui.
Ah ouais.
Alors, la première forme de paresse, alors c'est des traductions, hein, donc le mot va vous faire bondir, mais c'est ce qu'on pourrait appeler la léthargie, quoi. C'est-à-dire, franchement, non mais attendez, j'ai travaillé toute la journée. Vous croyez qu'en rentrant chez moi, je vais me mettre à méditer ?
Oh, ben non.
Non, ben la fêlée. Là, je t'ai aidé.
Ouais.
Mais je crevais, il faut pas exagérer quand même. Oui, c'est... Je me lâche, je me fais du bien, vous voyez, c'est ça. Hein? Ça repose quoi la télé. C'est ça. Non, c'est une bêtise. Surtout qu'il y a des trucs pour le moment. Donc je me lâche, vous voyez, c'est. Et c'est vrai que. Alors, vous me direz, il y a le samedi, mais au début d'après-midi, c'est l'heure de la sieste. Alors bon, là, c'est plus gênant. Ouais. Puis dimanche matin, j'aime mieux. Mais je m'y mettrai, hein, je m'y mettrai. Mais vous voyez, c'est. Dès que je m'y mets, d'ailleurs, je suis un peu fatigué.
On n'est pas rendu à samedi.
C'est reporté.
Alors, vous voyez le problème. Et alors, tout le problème, parce que ça, il faut vraiment doser, hein. C'est, faut pas confondre, c'est une question de sagesse, hein, de finesse de votre part. Parce que c'est vrai, quand on travaille la concentration, c'est fatigant, parce qu'on consomme de l'énergie. Puisqu'on a un travail de concentration. Donc il y a un moment où on n'a plus d'énergie. Et quand il n'y en a plus d'énergie, il faut avoir la sagesse de se reposer pour recréer de l'énergie. Et donc toute la difficulté pour chacun, c'est de dire, si je pratique et que je suis fatigué, est-ce que je dois me reposer avant de pratiquer, ou est-ce que je pousse un petit peu la pratique ? Et ça, je n'ai pas la réponse, malheureusement. Vous l'aurez pour vous. Vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire ? Vous l'avez déjà ressenti, peut-être.
Mais c'est une question de sincérité avec soi-même, quoi.
Ah ouais, il faut bien se peser.
Honnête.
C'est la connaissance de vous-même qui vous permettra de résoudre cette équation. Est-ce que c'est pour ma pratique plus habile d'aller me coucher ? Et c'est tout à fait possible. Ou est-ce que c'est plus habile de forcer un peu ? Parce que c'est trop facile. Et ça, vous avez tous la réponse. Moi, je n'ai pas pour vous. Là, pour chacun d'entre vous. Ça va, cette forme de paresse ? Il faut que je dépêche un peu plus, parce que sinon, on va faire quelque chose. Le deuxième défaut, c'est l'attachement aux activités de ce monde. C'est-à-dire qu'il y a toujours des activités extrêmement importantes. Et vraiment extrêmement importantes. Mais ceci dit, si ça peut vous rassurer, dans une centaine d'années d'ici, on sera tous pieds sur terre. Donc l'importance de ces activités, elle est toute relative. D'accord ? En Inde, au Tibet, ils disent, c'est pas tellement ce qu'on possède hein, qu'on emmènera avec nous.
Ah ben non.
Par contre, pour eux, ils disent, ce qu'on va emmener avec nous, c'est ce qu'on a fait à l'intérieur, là, vous voyez. Ça, c'est pas du tout lié aux activités du monde. C'est même plutôt le contraire. Donc on peut passer sa vie à courir après des choses. Mais même des activités, ça peut être des activités spirituelles ou religieuses, vous voyez. C'est une sorte de leurre, il faut bien comprendre. Hein. Des gens qui astiquent des statues, ou qui passent des coups de balai dans des temples, c'est une activité. Alors c'est bien, c'est une activité positive, au moins il ne tue personne.
Ah, non, d'accord. Non, ça
dépend comment. Mais ça reste une activité. Et donc, c'est pas une pratique. Sauf si, effectivement, la personne qui leur enseigne leur dit tu peux pratiquer en balayant, mais ça, c'est une autre question. On est d'accord. C'est une autre question. Mais avoir des activités, c'est une façon. C'est comme quand vous allez au cinéma, quoi. On est pris par le film. Vous voyez ? On est pris par le film de la vie. Mais à un moment donné, on arrivera tous au moment où on va perdre la vie. Et on regardera derrière nous. À quoi on servit ces activités ? Et je vous pose la question.
Mm-hmm.
Ouais. Ça va, je n'ai pas compris. À quoi servit-il ? Trouver la paix, vous verrez que vous pouvez la communiquer aux êtres que vous aimez, aux êtres qui sont autour de vous. Et pour trouver la paix, c'est pas forcément en courant après de l'argent, des possessions, des choses comme ça, ou un titre, ou un statut, ou une position, un conférencier. C'est un piège. C'est un piège. Parce que vous attachez à quelque chose. Et donc les activités, ben regardez, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure Dominique, ça illustre bien le propos. Certainement, les personnes qui ne sont pas là avaient de très bonnes raisons pour être. Pourquoi ? Parce qu'il y avait quelque chose d'important. On est bien d'accord. Et des fois, on pourrait pratiquer, mais on a des choses plus importantes à faire. Donc, je m'insiste pas plus. À vous d'en faire ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que cet attachement nous empêche de travailler. Ça va ? Le troisième, la troisième forme de... C'est toujours c'est des formes de paresse. Hein. La troisième forme de paresse, c'est le... Alors là, c'est, on le retrouve très souvent dans nous, ici. C'est découragement, dépréciation de soi. Conscient ou inconscient. C'est-à-dire, on ne croit pas en soi. En... Vous voyez ? C'est bien ce qu'il dit, mais compte tenu de l'âge que j'ai, compte tenu de mes activités, moi, je ne pourrais pas, quoi. Je vais pas avoir, moi j'arriverai pas, c'est bien pour les autres. Ou peut-être que dans ma prochaine vie, je ne sais pas, je reviendrai à l'université de Metz. Mais on verra ça dans la vie prochaine parce que là, dans cette vie-là, je suis pas prêt. Non ? Oui ? C'est bien pour les. On va regarder la télé, on voit des trucs comme ils sont fantastiques, mais si ils sont nés, ils font ça depuis qu'ils sont tout petits. Ils font ça depuis qu'ils sont tout petits, donc ils vont y arriver forcément. Attendez, l'âge que j'ai, je vais me mettre à ça. Vous imaginez que l'an prochain, j'arrive à faire un truc comme ça ? C'est pas pensable, non ? Oui ? J'essaie de vous provoquer un peu, mais...
Non, mais c'est vrai.
Vous avez jamais pensé à un truc comme ça ? C'est le... On peut vraiment... on peut faire des choses fantastiques. Je ne suis pas le premier à le dire. Hein. On peut faire des choses fantastiques. Le véritable obstacle à ça,
ouais.
On est l'obstacle à sa réalité. Mais on peut tous faire des choses. On a créé des murs autour de nous pour nous protéger, pour nous permettre de survivre, de nous accommoder de la vie. Ces murs nous protègent, et ces murs nous emprisonnent. Et toute la créativité, toute la richesse que l'on a, elle est derrière ces murs. Trouver le moyen de faire éclater les murs, c'est sortir. Oui. Et si vous doutez de cette richesse, vous n'aurez pas la volonté ou l'ardeur de faire sauter les murs. Il n'y a aucun intérêt. Vous êtes en puissance absolument riche intérieurement, tous. Il y a quelque chose de merveilleux. C'est à vous de le sortir. Si vous en doutez, ça peut devenir un défaut pour vous. Ça va ce que je dis ? Vous avez conscience que vous êtes un trésor ? Vous le savez ? Vous le saviez avant que vous le disiez. Vous n'avez pas attendu. Hein. Non ? Si ? Vous le saviez déjà ? Vous étiez des trésors.
Oui.
Bon. Allez, je passe au défaut suivant. Le défaut suivant, c'est l'oubli des instructions. L'oubli des instructions, c'est, ça peut être entendu de deux façons. Par exemple, tout ce qu'on est en train de dire, demain, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Ça, c'est une forme d'oubli des instructions. Mais ce n'est pas la seule. Hein. Je vais vous donner une forme d'oubli des instructions. Vous essayez sur votre machin, en lotus, en demi-lotus, en quart de lotus, tout ce que vous voulez, en méditation. Et vous dites, là, tiens, par exemple, je vais me concentrer sur un objet ou je vais être attentif à ceci. Sauf que quelques secondes après, vous vous souvenez que vous avez oublié d'éteindre le gaz sous la casserole de café. Ce qui est très ennuyeux. Mais du coup... Ah oui, parce que ça peut avoir des suites. Et du coup, on a un peu oublié ce sur quoi on se concentrait, vous voyez. L'oubli des instructions, c'est aussi l'oubli de nos propres instructions. Ou alors vous décidez, par exemple, vous dites, université populaire, tout ça, mais des cours sur la méditation, entraînement mental, mindfulness, le bien-être, ça m'intéresse. Et puis au bout de quelques mois, il y a autre chose qui passe dans la tête, vous voyez, c'est un peu comme Et puis on oublie la motivation. C'est pareil pour les histoires d'amour, entre parenthèses. Hein. L'histoire d'amour monte, monte, puis à un moment donné, vous avez oublié. Ah, oui, par ailleurs. C'est un peu comme ça que ça se passe, quoi. Et on peut, comme ça, bouger beaucoup. Mais quoi, on est beaucoup.
Ça, en fait, on va attirer notre désir.
Oui, mais bon.
On oublierait notre désir. Et parce que là, c'est plutôt les instructions, désir et instruction. Je suis pas sûr que ce soit complètement synonyme, puisque désir, là, ça serait plutôt à rapprocher de l'obstacle.
Mais dans le cadre du feu sous la casserole de café,
on rend
mieux et penser
à un moment donné. Oui.
La casserole de café. Bon exemple. Parce que l'instruction première, c'est s'installer dans une condition favorable.
Voilà. Voilà, voilà, absolument.
Oui, mais en fait, on aurait pensé avant d'éteindre le gaz, avant de s'installer. Donc, c'est qu'on n'était pas dans ce qu'on faisait. Voilà.
Oh, j'ai plus rien à dire. Vous posez des questions, vous apportez des réponses. C'est une affaire qui marche.
Peut-être quand on est dans un moment. De l'étale, par exemple, moi personnellement, bon, ben, je suis religieuse, je suis assise en prière, et bien, c'est au moment où j'arrive à la prière, que je vois, je veux ça. Alors, toi, pour ta base, on en oublie, quoi. Voilà. Mais si j'avais pas eu ce temps de calme, de silence avant, j'aurais complètement oublié ce que je voulais faire.
C'est pas vrai. Oui, parce que quand on s'assoit pour prier comme vous, pour méditer, c'est comme quelque chose qui se clarifie à l'intérieur. Et donc, on se rappelle plus facilement des choses en attente. Et c'est vrai que, pour répondre avec sérieux, c'est vrai que c'est dangereux. Mais si c'est une raison d'y aller, il faut y aller. Mais après, il faut revenir. Ouais, c'est simplement... Il faut jouer avec ça. C'est sûr qu'on est plus clair quand on est dans cet état-là. Donc, on voit mieux ce qu'on a oublié. Mais une fois qu'on va résoudre le problème... Il ne faut pas oublier de revenir. Et on revient. On est d'accord. Ça va, c'est clair pour tout le monde ce qu'on est en train de dire. Et à chaud, on verra les antidotes. Coupez le gaz. Ça va pour oublier des instructions. Alors, le troisième défaut, c'est...
Non, mais non, on est là le deuxième. Les autres étaient dans la paresse. Mais oui.
Les testés depuis des années. Premier défaut, elle a trois formes.
Voilà.
L'énergie,
l'attachement.
L'attachement aux activités du monde.
Découragement.
Le découragement des prestations de soi.
Voilà.
Ça, c'est les trois formes de la paresse.
Voilà.
La paresse. La léthargie. Deuxième défaut, c'est l'oubli des instructions. L'oubli des instructions. Troisième défaut, c'est la torpeur et agitation. C'est-à-dire, quelque part, vous êtes en train de concentrer ou prier. Et puis, il y a plein de soucis parce qu'il y a un vrai problème. Et donc, ça tourne dans la tête. Et du coup, la prière n'est pas efficace. Vous n'êtes pas vraiment là. Vous n'êtes pas vraiment dans la concentration. Il y a de bonnes raisons, certainement. Il y a de bonnes raisons. Je ne juge pas, je ne critique pas. Mais n'empêche que, du coup, ça vous empêche d'être vraiment dans la prière ou vraiment dans la méditation. Et ça, c'est un défaut. Alors, je verrai après les antidotes, hein, comment corriger ce genre de défaut. Mais la torpeur aussi, c'est pareil.
L'agitation.
La torpeur, c'est. L'esprit s'endort, quoi. Il perd sa vigilance. Vous voyez, on est bien, mais du coup, on n'est pas vraiment clair, quoi. C'est plus proche d'avoir fumé l'avocat que de. Ça fait rien. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça va, ça c'est un vrai défaut. Hein. Ah, c'est très proche. Hein. C'est très proche. Disons que.
C'est
par exemple si vous êtes dans l'éthargie, vous imaginons que vous êtes vous sentez que vous vous endormez, etc. Imaginons, vous vous dites, c'est parce que je suis paresseux, il faut que je continue à travailler. Mais en fait, c'est simplement que vous êtes fatigué. Donc vous allez concentrer votre esprit, donc vous allez consommer de l'énergie. Et donc, à un moment donné, ben, vous allez tomber dans la torpeur. Tout est très proche, hein, mais vous tomberez dans la torpeur pendant la pratique. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un défaut de vous être trompé dans votre appréciation. Il aurait mieux valu se reposer un peu. Ça va, c'est clair ma réponse? Donc, le quatrième défaut, c'est le quatrième?
Oui.
C'est quoi? C'est... Ah oui, parce que... c'est... Attention. C'est ayant constaté le troisième, je ne mets pas en place les antidotes adaptés. Ça revient à ce qu'on vient de dire. Ayant constaté le troisième défaut, c'est-à-dire ayant constaté l'agitation ou la torpeur, je ne fais rien. Par exemple, vous arrêtez pour méditer, prier, faire ce que vous voulez, et vous avez vraiment quelque chose qui vous perturbe, comme par exemple le café qui reste allumé.
C'est aussi les bras.
Ben, si on fait rien, on va rester pas tranquille, quoi. Donc il vaut mieux se lever, aller éteindre le gaz ou résoudre le problème qui est résolu, mais sans oublier de revenir. Oui. Je vais prendre un autre exemple. C'est si vous, par exemple, vous vous endormez. Alors, mesdames, si vous êtes un petit peu dans la torpeur, c'est simplement penser à mettre un petit peu plus de lumière, à baisser le chauffage,
oui,
voire à changer de régime alimentaire ou à dormir un peu plus.
Oui.
Vous voyez, mais il y a des quantités de choses à faire pour lutter contre cette torpeur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est dans la relation que vous pouvez avoir avec quelqu'un qui vous accompagne que lui va vous suggérer le bon objet, quoi, la bonne chose à faire. Moi, je ne peux dire que des généralités, pas forcément des choses adaptées à chaque fois.
C'est tout, c'est de revenir. Il n'y a pas de... Dans le temps, on peut,
oui,
on peut revenir.
Admettons, oui,
on commence à méditer,
voilà,
personne ne nous invite. Bon, voilà.
On revient. Mais voilà, on n'oublie pas de revenir.
Il n'y a pas une question de temps.
Le tout, c'est ce qu'il y a dans votre tête. Et effectivement, si par exemple je m'endors, ben, je vais peut-être ouvrir la fenêtre, vous voyez, pour avoir un petit peu d'air frais.
Est-ce qu'on fait en voiture?
Voilà, en fait, c'est du bon sens, c'est qu'on fait en voiture, il y a... C'est ça, oui, c'est ça. C'est-à-dire, ayant constaté le troisième défaut, le quatrième défaut, ce serait de ne rien faire. C'est pas comme les obstacles, là, les défauts. Les obstacles, on les constate. Les défauts, on trouve une action correctrice. J'aborde le cinquième. Le cinquième défaut, c'est ayant constaté le troisième et ayant mis en œuvre quelque chose au niveau du quatrième, je ne mets pas fin à ce que j'ai fait précédemment. C'est pas clair ?
Ayant mis en œuvre.
Oui, j'ai constaté un défaut. J'ai mis en œuvre un antidote. Quand le défaut a disparu, j'ai oublié d'enlever l'antidote. Je vais donner un exemple concret. Par exemple, je vous disais, je suis en train de somnoler. J'ouvre la fenêtre, c'est l'hiver, et ça me réveille.
Ouais.
À un moment donné, je ne somnole plus. Eh bien, si j'oublie de fermer la fenêtre, je m'en relis.
Ah bah oui,
c'est
ça.
C'est du bon sens.
Ça.
On utilise un antidote que tant qu'il y en a besoin. Sinon, on a l'effet inverse. Vous voyez? Et ça, c'est un défaut. C'est toujours une très grande lucidité. C'est vraiment, on est très... c'est basique, quoi. C'est vraiment le truc paysan, mais... Paysan, pas con du tout, quoi. J'ai besoin d'un truc, je vais le chercher. Je n'en ai plus besoin. Je ne m'encombre pas avec. C'est de l'intelligence pure, quoi. Vous voyez ? Mais la personne qui ne s'observe pas travailler, elle ne s'en rendra pas forcément compte. Et du coup, elle ne corrige pas le défaut. Ça va ce que je vous ai dit ? Donc si vous constatez un défaut, et là c'est valable pour la plupart des choses qui ont été exprimées, si vous constatez un défaut, pas un obstacle, hein, les obstacles je ne reviens pas dessus, si vous constatez un défaut, la question qu'il faut vous poser, c'est qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour enlever le défaut ? Donc si le comptage me gêne ou... Oui. Qu'est-ce que je peux changer d'objet? Mais à un moment donné, je ferai bien de la méditation sans objet. Donc je passerai bien, je ne tomberai pas dans le cinquième défaut. Vous suivez le raisonnement? Donc tout ce que vous avez, pour certains, vous avez exprimé tout à l'heure, la vraie question qu'il faut vous poser, c'est si j'ai constaté un défaut dans ma pratique, qu'est-ce qu'à moi, avec mon intelligence, je peux... Il faut être créatif. Qu'est-ce que je peux faire pour lutter contre ce défaut? C'est du bon sens, encore une fois. Mais une fois que j'en aurai plus besoin, il faudra penser à l'arrêter. Parce que ça n'aura plus d'utilité. C'est clair ce que je vous dis? Alors, les antidotes. On préconise 8 antidotes pour lutter contre ces 5 défauts.
Et le 5e défaut,
c'est
quoi?
Et en constater le 3e.
Enlever l'antidote quand elle a plus besoin. Quand elle a plus besoin d'antidote, c'est comme si on tombe malade, on prend un médicament, à un moment donné, il faut arrêter le médicament. Sinon, la fois d'après, il ne fait plus d'effet, quoi. Quand elle a plus besoin. Mais là, c'est exactement pareil. C'est que du bon sens. C'est que du bon sens.
Après, il nous rend malade.
Hein?
Après, il nous rend malade.
Après, il nous rend malade. C'est ça, là. Et après, il faut prendre un autre. Et on arrête ça. Donc, pour lutter contre ces 5 défauts, on propose 8 antidotes. Donc, je vais vous les donner les unes après les autres. Comme je les ai retrouvés. Voilà. Les 4 premiers se réfèrent plutôt au premier défaut, c'est-à-dire à la paresse. D'accord? Pour lutter contre la paresse, il faut cultiver 4 choses. La toute première, et ça c'est pure pédagogie, c'est l'aspiration au intérêt. C'est-à-dire, si vous êtes intéressé, si vous aspirez à quelque chose, alors vous pourrez vaincre votre paresse. Hein, si je prends l'exemple de la prière, si je prends l'exemple, vous voyez, où quelqu'un va, il met tout son cœur, vous voyez, la personne y voit un intérêt, elle aspire à quelque chose. La méditation, les gens qui sont sincères, vous voyez, il y a une force au niveau du cœur. Il y a une vraie sincérité, et du coup, on va vaincre le défaut de la paresse. Pourquoi? Parce que notre inspiration est très forte. Si vous avez une aspiration à éprouver des choses par la méditation, à vous faire du bien par la méditation, si votre aspiration est très forte, vous vaincrez la paresse. Si vous êtes tenté de paresser, d'aller voir la télé, vous allez vous dire, ah, non, moi je sais ce que je veux. Parce que mon aspiration est forte. Ouais, logique, hein?
Ben oui.
C'est pour ça que en pédagogie, on va parler de motivation. Et c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à ce qu'on décide de faire. Il faut mieux pas le faire que de construire sur un terrain qui n'est pas vraiment propice. Si je me suis posé la question très sérieuse de dire est-ce que cette voie-là m'intéresse, il y a un moment donné, il faut que j'arrête de poser la question. Si c'est oui, c'est oui. Ou c'est non, c'est non. Mais si c'est oui, alors je sais pourquoi ça m'intéresse. Et je sais ce que j'attends. Et cette aspiration-là, ça me permettra de surmonter ma paresse. Parce que si je veux l'atteindre, il faut que j'arrête de faire ça. C'est tout ça. Tout ça. Qu'est-ce qui est une vraie valeur pour nous?
Hein?
Donc, vous y pensez, ça c'est l'aspiration matérielle. Deuxième chose, c'est l'ardeur. C'est exactement comme dans les histoires d'amour. On peut aimer, vous voyez, sur le plan spirituel, on peut aimer sur le plan physique, mais c'est toujours pareil. Ce qui fait la beauté de l'amour, c'est l'ardeur, tout ce qu'on est dedans. Bon, si c'est un truc qu'on fait en touriste, comme ça, ça se sent en face. C'est pas motivant, quoi. Si vous êtes dans l'ardeur, ça se sent aussi. Oui? Bon, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont eu des histoires d'amour, déjà? Ça me regarde pas. S'il y a de l'ardeur, en principe, c'est puissant. Et bien, la spiritualité, l'entraînement mental, tous ces trucs-là, c'est exactement pareil. Si vous faites ça un petit peu comme on ferait une partie de domino ou Scrabble, j'ai rien contre les joueurs de domino ou Scrabble. Hein. Il y en a qui mettent beaucoup d'ardeur. Mais, vous voyez, si on le fait avec une certaine ardeur, et bien, c'est puissant. Ça va? J'insiste pas plus? Troisième chose, comment il faut faire les choses? Avec foi. Eh bien oui. Et ça, on retombe sur ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que c'est très difficile. Parce que vous voyez, par exemple, la méditation, la prière, des choses comme ça, quand on rencontre, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que dans les années 70, j'avais rencontré des gens qui avaient vécu 30 ans dans des grottes, des choses comme ça. Quand vous êtes avec des personnes comme ça, la question ne se pose pas. Parce que vous c'est puissant, vous voyez, les gens, il y a quelque chose qui se passe, c'est un peu, ça ne s'explique pas intellectuellement. C'est un peu comme Mathieu Ricard quand il dit j'ai rencontré, c'était comme Saint-François d'Assise, j'ai rencontré mon maître, c'est comme si j'avais rencontré Saint-François d'Assise. Il dit il n'y a pas d'explication logique, rationnelle, c'est à l'intérieur. C'est quelque chose qui est très puissant. Si on ne l'a pas, il nous manquera. Si on n'a pas la foi. Et d'ailleurs, ce qui nous permettra aussi de lutter contre la dépréciation, vous vous souvenez, particulièrement de nous-mêmes. Il faut avoir foi en vous. Ayez foi. S'il vous plaît, ayez foi en vous. Croyez en vous. J'aime ça. Si vous faites ça, c'est top. Ayez foi en vous. Moi, j'ai foi en vous. Pour vous, vous verrez que c'est... Ça va, j'insiste pas plus sur ce troisième sujet. J'attaque le quatrième. Je passe au quatrième. Alors, le quatrième, c'est... là, on vient sur... c'est être bien entraîné. C'est exactement le principe de l'entraînement. C'est-à-dire, on peut faire tout le travail qu'on veut. Si on le fait pas suffisamment souvent, il n'y a aucun entraînement. Ça ne va pas porter ses fruits. C'est exactement comme la personne qui veut jouer du piano, faire quelque chose, un art. S'il n'y a pas d'entraînement, c'est très... On peut faire n'importe quoi, on ne va rien faire du tout. Les neuroscientifiques, l'entraînement mental, il y a deux mots d'entraînement mental. Il y a entraînement. L'entraînement permet qu'à un moment donné, le cerveau a automatisé une posture correcte. C'est uniquement l'entraînement qui permet, rien d'autre. Il n'y a aucun antidote, aucun choix intellectuel, aucun livre, aucune phrase, il n'y a rien. Bien sûr, je me rends compte que c'est une expérience, ça c'est tout, oui, d'accord. Mais de façon, je dirais, maîtrisée, la seule chose qui va permettre que ce phénomène arrive, c'est l'entraînement des esprits. Si votre esprit est entraîné, de lui-même, il se placera dans une posture correcte, et là, tout peut se passer. Si l'esprit n'est pas entraîné, il ne se mettra jamais. Et vous passerez des années à essayer de l'entraîner. Ça, c'est très important. Bien comprendre. Je peux passer des années à avoir une parfaite technique à vos souhaits, à essayer d'entraîner mon esprit. Tant que je suis dans un effort, je reste là. Et je n'en sortirai pas. Si je suis suffisamment entraîné, mon esprit s'y placera de lui-même. Et donc là, je n'ai plus rien à faire. Et les choses se feront naturellement. La seule condition, là, en particulier, c'est l'entraînement. Ah oui, il faut accepter l'effort. Il faut avoir de l'ardeur. Et oui, c'est pour ça, tout est dit. Il faut accepter l'effort, il faut se rentrer dedans, et il faut effectivement être entraîné. Si vous êtes entraîné, il n'y a aucun problème. Hein. Vraiment, je vous le dis vraiment très sincèrement. Hein, on a des choses fantastiques à découvrir. Et on ne les peut les découvrir que parce qu'on a un bon entraînement. Sinon, ça reste un peu livresque. Vous connaissez ça actuel. Ça va? J'insiste pas plus sur l'entraînement. Donc ça se réfère plutôt à la paresse. Hein. Si vous développez ces quatre antidotes-là, vous passez à lutter contre la paresse. Après, le cinquième, hein, qui se réfère plutôt à l'oubli des instructions, c'est l'attention en mémoire. C'est-à-dire que pour ne pas tomber dans l'oubli des instructions, il vaut mieux avoir de la mémoire. C'est dans le sens. C'est pour ça que la méditation, l'entraînement mental, l'entraînement de la mémoire, tout ça, c'est très bien. Hein? Si je suis en train de... Voilà, je suis concentré là. Je reviens du tout, j'essaie de faire le vide et d'être attentif à ce qui se passe. Si je n'ai pas la mémoire de cette impulsion-là, je vais me mettre à penser à autre chose. Mais je vais me mettre à penser à autre chose, surtout parce que je manquerai d'attention en même temps. Ça va se faire trop vite, vous voyez. Et je n'ai pas été assez attentif. Et je m'en aperçois plus tard. Et puis je fais un rappel. Vous comprenez la mécanique. Manque d'attention, oubli, manque d'attention, donc rappel. Donc quand je fais des rappels, je suis là. Donc il faut utiliser comme antidote là, l'attention et la mémoire. Et donc il faut travailler la mémoire. Peut-être qu'un jour il y aura des cours sur la mémoire. En fait. C'est l'attention. Mais c'est très important. L'attention, c'est travailler l'attention. Si on apprenait aux gamins à l'école, et s'il y avait des cours sur l'attention, ouais, ça changerait complètement. Des cours sur comment apprendre, ça change complètement. Malheureusement, c'est pas au programme. C'est dommage. Ça va le cinquième? Le sixième, c'est la capacité d'observer la présence de l'interpreteur de l'agitation. L'antidote, c'est je suis capable de l'observer. J'observe que je suis dans l'interpreteur. J'observe que je suis dans l'agitation. J'observe que je suis en train de m'endormir. C'est ce que vous exprimez. J'ai conscience que je suis dans la torture. Mon esprit n'est pas clair. Le septième, ayant fait cette constatation, je mets l'antidote adapté en place, avec les remarques que je faisais tout à l'heure. Et le huitième, et bien quand tu n'en as plus besoin, j'arrête l'antidote. Voilà, c'est ça.
Le septième, c'est quoi?
Alors, le sixième, c'est que je suis conscient que je suis dans la torpeur ou l'agitation. Le septième, c'est parce que je suis conscient que je suis dans la torpeur ou l'agitation, je mets en place un antidote adapté. Ça, c'est le huitième. C'est ça? Hein? Le sixième, je regarde, j'observe, je vois que je suis dans la. Sixième, je vois que je suis dans la torpeur de l'agitation. Septième, je mets l'antidote adapté. Et huitième, je l'enlève quand elle est plus loin. Ça va, tout le monde est d'accord? Donc, c'est.
Par exemple, quelqu'un qui commence à méditer, quelqu'un qui
n'a pas
dormi.
Oui. Voilà, c'est exactement la question. C'est ça la question.
On reprendrait la séance après.
Voilà, c'est tout à fait la question. Imaginons, vous faites votre séance et vous vous endormez. Donc, est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas trop diligente, vous n'avez pas envie, ou c'est une sorte de paresse, ou est-ce que c'est parce que vous êtes fatigué? Parce que vraiment, vous êtes fatigué, vous êtes de vous endormir. Si c'est parce que vous êtes fatigué, il vaut mieux vous reposer puis reprendre après. Alors, moi je sais que ce que je faisais à un moment donné, parce que ça aussi c'est possible, mais c'est parce que je suis beaucoup habitué à la posture. Étant dans la posture de la concentration, je m'aperçois qu'effectivement, parce que je me lève tôt, parce que j'ai beaucoup d'activité, j'ai tendance à être dans la torpeur, quoi. C'est-à-dire je perds ma clarté dans la méditation. Donc à un moment donné, je restais complètement immobile. Et je dormais sur place. Le temps de retrouver un peu comme ça, de retrouver mon énergie dans la posture. Et puis après, je repars. Au bout de quelques minutes. Pour moi, c'est pas gênant. C'est pas quelques minutes. Et après, je repars. Et je continue. La seule différence, c'est que je me suis reposé. Je sais pas si ça. Et bien, c'est que vous avez peut-être besoin de dormir. Si vous avez besoin de dormir, c'est que peut-être que vous avez accumulé de la fatigue ou des choses comme ça. Mais oui, si ça vous arrive, et c'est là que, on va prendre votre exemple. Imaginons qu'est-ce qu'on peut faire un cas comme ça. Il faut que vous soyez comme des scientifiques vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire, ce que vous devez vous demander, c'est là, il est. À quelle heure c'était le matin, l'après-midi? 14h. Là, il m'arrive ça à 14h. Ben, si vous pouvez, hein. Demain, j'essaie de méditer à 18h.
Oui.
Ou à 8h du matin. Est-ce que ça va continuer de m'arriver? Vous comprenez?
J'ai repris après, dans la semaine, devant un feu de cheminée.
Voilà.
Là, j'ai tenu 18h.
Voilà.
C'est...
Mais vous voyez, il faut que vous ayez cette rigueur scientifique. C'est-à-dire, j'observe ce qui se passe. Et beaucoup de gens sont malheureusement trop dans le jugement ou des trucs comme ça, alors qu'il faut simplement être dans l'observation.
le phénomène que vous décrivez, vous avez vous-même bien réagi, c'est-à-dire je reproduis ma tentative, mais dans une autre condition. Et j'observe toutes les conditions possibles, et j'observe quelle est la condition la plus propice à mon avancement. Mais c'est, vous voyez, c'est du bon sens, encore une fois. C'est-à-dire, je ne me décourage pas.
C'est vrai que l'objet fait beaucoup de...
Voilà. Si vous êtes attentif, vous êtes attentif à ce que vous faites, vous allez vous-même trouver les antidotes dont vous avez besoin. Le manque d'antidotes vient souvent d'un manque d'attention, d'un manque d'acceptation. Il faut prendre la situation comme elle se présente, votre état comme il se présente, il faut l'accepter, il ne faut pas le refuser. On est ce que l'on est, on a des raisons d'être ce que l'on est. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ce que l'on est. Et ça, c'est votre observation qui vous permettra de trouver les antidotes et de les enlever quand il n'y en a plus. Mais je vais quand même vous rassurer. Imaginons que malgré tout ce que je vous raconte...
2 minutes, 5 minutes.
Ça tombe bien, c'est 2 phrases. Imaginons que malgré tout ce que je vous raconte, ça ne marche pas. Eh bien ça arrive de temps en temps. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont été trop blessées par la vie pour arriver à se concentrer. Et alors, que faut-il faire dans ces cas-là? Revenir à la prochaine session. Parce que nous apporterons une technique complètement différente. C'est quand on est à la recherche de la paix, et quand on vraiment, malgré toutes les explications et toute la bonne volonté que l'on a, on n'arrive pas à méditer, il y a une autre façon de faire, et ça s'appelle les 4 pensées qui changent la tournure de l'esprit. C'est comme le film Inception, hop, j'introduis une pensée dans votre esprit, et la pensée avance toute seule et procure des produits, des changements. Et donc le fait de méditer ses pensées, normalement, donne des résultats tout à fait intéressants. Et si la question vous intéresse, je vous invite à venir le 9 décembre, le 19 décembre, et nous traiterons ces 4 pensées. Voilà, je vous remercie pour votre attention.